Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 1er juin, une question. Jusqu'à quand ? Une femme martyrisée est tombée sous les coups de son compagnon à Douai. Les policiers sont priés par leur hiérarchie de traiter de manière prioritaire désormais ces féminicides et d'adresser sans délai les plaintes et les mains courantes à la justice. Les signalements ont augmenté de 40% dans trois régions. Mais jusqu'où les lignes peuvent-elles bouger ? Nous serons avec Céline Parizeau, l'Union syndicale des magistrats. Une promesse non tenue, le compteur électrique Linky ne devait pas coûter un centime aux particuliers. 10 ans après, on passe à la caisse. Dans RTL Midi aussi, la Grande-Bretagne qui s'inquiète de la poussée du variant indien. La troisième vague a déjà commencé, disent les experts. Nous verrons quelle est la situation ici en France. Et puis notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson, a eu un coup de cœur pour une femme d'honneur de la gendarmerie nationale qui a sauvé 22 personnes. Enfin, une femme. Vous verrez. La météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Une chaleur absolument estivale.
Et oui, 30 degrés prévus cet après-midi à Nantes, 29 à Paris, 28 à Brest, Lyon, Bordeaux, Montauban, 27 à Marseille et Mulhouse, 25 au Havre et Perpignan. Alors côté ciel, il fait encore très beau, mais les orages arrivent par le sud-ouest avec des averses orageuses et de la grêle localement, notamment sur l'Aquitaine. Puis en fin de journée, toute cette instabilité va remonter et s'étendre jusqu'au midi toulousain avec du vent, le massif central et jusqu'au Poitou-Charentes. Et dans l'après-midi, une petite averse orageuse possible également en montagne sur les Alpes et le Jura.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la lutte contre les féminicides, la prise de conscience vous semble-t-elle à la hauteur? Vous êtes 68% à nous dire non, il y a 19% de oui. Appelez-nous au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, ce sera évidemment l'un de nos sujets majeurs entre 13h et 14h30. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Un livreur noir a été agressé devant un restaurant à Cergy-Pontoise, dans le Val-d'Oise, alors qu'il récupérait une commande. Vous pourrez là aussi nous donner votre avis. Vous avez été nombreux également à réagir hier à l'agression de catholiques, samedi à Paris, lors d'une procession et dans une tribune au Figaro. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, condamne cet acte, je cite, d'activiste de l'ultra-gauche. La digue avec l'extrême droite est infranchissable selon le patron des députés des Républicains, Damien Abad. Il semble que tout le monde ne soit pas d'accord au sein de son propre parti. Et puis, Marilyn Monroe, figurez-vous, aurait eu aujourd'hui 95 ans. Elle était née le 1er juin 1926. Elle s'appelait, comme chacun sait, Jean Mortensen, Norma Jean Mortensen.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Et d'abord ce nouvel épisode dans la saga du compteur Linky qui devait nous changer la vie et nous permettre de faire des économies. Eh bien ce compteur électrique qui a été lancé il y a 10 ans avec cette promesse du ministre de l'énergie de l'époque, Éric Besson, il ne coûtera pas un centime aux particuliers. Aujourd'hui, Armel Lévy, alors que 90% des foyers en sont équipés, eh bien on paye l'addition.
Ah oui, on peut dire ça comme ça. En fait, Enedis, qui a emprunté pour la pose de ses compteurs, veut le répercuter sur notre facture. Alors vous ne verrez pas une ligne compteur Linky, non? Ce serait compris dans la taxe d'acheminement du réseau qui devrait augmenter. Et pas mal, hein, cela pourrait représenter une hausse sur la facture de 15 euros par an pendant 10 ans. Antoine Autier de l'UFC Que Choisir crie au scandale.
Ce compteur est loin d'être gratuit, c'est pourtant ce qui était vendu. En termes de message aux consommateurs, mais en réalité, cette application qui va arriver finalement du coup du Linky arrive déjà à un moment où la facture d'électricité explose pour les consommateurs. Donc on voit bien que ça va finalement participer à encore alourdir la facture d'électricité des consommateurs au cours des prochaines années.
Alors pour l'instant, face à la levée de boucliers, Enedis rétorque que la taxe n'augmentera pas plus que prévu l'année prochaine. Mais en attendant, les associations de consommateurs demandent de la transparence.
Armel Lévy, le quoi qu'il en coûte touche à sa fin. Les aides aux entreprises seront levées progressivement durant l'été, même si le gouvernement va rajouter une nouvelle perfusion de 15 milliards d'euros pour limiter la casse. Certains redoutent une vague de faillite. Alors pour les accompagner, il vient de dévoiler un système d'alerte et de sécurité, Anaïs Bouissou.
Oui, c'est un filet de sécurité à tous les étages, hein, déployé par les professionnels qui travaillent avec les chefs d'entreprise, les banquiers qui, en cas d'alerte, peuvent proposer un rendez-vous aux entreprises, les experts comptables qui s'engagent à des diagnostics de manière gratuite, les avocats aussi qui proposeront des conseils, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat qui vont sensibiliser 25 000 entreprises aux aides d'État. Et enfin, même au niveau de l'administration, dès qu'une difficulté d'entreprise est repérée, une aide sera proposée à l'aide des algorithmes de Bercy. Il y aura des réseaux dans chaque département et au-delà, un réseau national pour aider les entreprises à retrouver une activité normale. Dans tous les cas, À la moindre question, si vous êtes chef d'entreprise, il y a un numéro unique à composer, il est important. C'est le 0806 000 245 avec au bout du fil un conseiller pour vous orienter vers le dispositif le plus adapté pour vous. Mais ce n'est pas tout. Pour les entreprises dont la trésorerie est vraiment trop dans le rouge, s'il faut en passer par un tribunal administratif ou un tribunal judiciaire, là aussi les procédures vont être simplifiées. Les mandataires judiciaires s'engagent à limiter leurs honoraires et à traiter les dossiers en 3 mois.
Anaïs Bouissou et l'exécutif aimeraient aussi que l'épargne profite à l'économie, car les Français ont mis de côté environ 142 milliards d'euros de plus qu'en temps normal entre la fin du premier trimestre 2020 et la même période de cette année. Et il faudrait qu'ils dépensent, ces Français, si notre pays veut atteindre les 5% de croissance cette année. Au moment où la vaccination tourne à plein régime et où l'on entrevoit une sortie de crise de l'autre côté de la Manche, le variant indien inquiète. La troisième vague a déjà commencé, disent les experts. Et la fin des restrictions fixées au 21 juin risque d'être repoussée. On retrouve à Londres Marie Boéda.
Il aurait fallu fermer les frontières avec l'Inde beaucoup plus tôt. Des scientifiques reprochent au gouvernement britannique d'avoir réagi trop tard face à l'arrivée du variant. Le 23 avril, le pays est placé sur la liste rouge. Selon le Times, les ministres étaient informés de cette nouvelle souche dès le 1er avril. Voilà de quoi concentrer les critiques. La communauté indienne est en plus très présente au Royaume-Uni. Des milliers de voyageurs ont pu faire l'aller-retour en avril alors que le variant se propageait. La bonne nouvelle, c'est une étude anglaise qui atteste que le vaccin protège du variant, mais avec 2 doses. Sauf qu'outre-Manche, il faut attendre 12 semaines pour recevoir sa deuxième injection, 2 fois plus qu'en France. C'est trop long, préviennent certains scientifiques. On y apprend aussi qu'AstraZeneca est moins efficace, 60% de protection après 2 doses, contre 88% pour Pfizer. Le nombre de cas est élevé, surtout dans le nord-ouest de l'Angleterre. Certains experts appellent au calme sur l'ensemble du Royaume-Uni. Les contaminations restent faibles. Hier, aucun mort du coronavirus n'a été signalé dans le pays.
Marie Boéda, RTL Londres. Depuis hier, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni doivent s'isoler 7 jours à leur arrivée en France. Mais le variant indien est-il déjà présent dans notre pays? Et comment le dépiste-t-on, Sophie Orange?
Alors déjà, les derniers chiffres. Au 25 mai, 100 de cas ont été dépistés. La grande majorité est liée à des voyages en provenance d'Inde. Mais pour ces épisodes, non. Un EHPAD en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 clusters en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 en Île-de-France. Santé publique France et la CNAM se veulent rassurantes. Elles savent qu'il est plus facile de remonter les chaînes de transmission et retrouver tous les cas contacts liés à un variant lorsque l'épidémie régresse, comme en ce moment avec 10 000 cas par jour, que lorsqu'il y en a 5 fois plus. Mais elles savent aussi que le variant indien ne peut pas être encore détecté par tous les tests PCR dans les labos. Il y a donc des cas positifs qui passent sous les radars et qui ne sont pas comptabilisés. Certes, des enquêtes flash de séquençage sont réalisées régulièrement. Elles permettent d'identifier le variant à 100%, sauf qu'elles prennent beaucoup plus de temps. Il y a donc forcément un décalage entre les chiffres et la réalité, mais la progression et la vitesse de propagation du variant indien en France est beaucoup moins rapide que celle du variant anglais à l'origine de la troisième vague.
Voilà, et ça au moins, pour l'instant, c'est rassurant. Merci Sophie. À l'étranger, l'épouvantable chiffre d'une décennie de guerre en Syrie, elle a coûté la vie à près de 500 000 personnes d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le conflit avait démarré en 2011 avec la répression des manifestations pro-démocratie par Bachar el-Assad. Une pause et dans un instant, on ouvre le dossier douloureux des violences conjugales avec un nouveau féminicide à Douai.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Mérignac, Hayange et maintenant Douai. On est à 39 féminicides depuis le début de l'année. À Douai, donc dans le Nord, une jeune femme de 33 ans a été tuée par son concubin alors que la police avait été alertée quelques heures auparavant, Antoine de Carnes.
Oui, au 10e étage de la tour James, dans la résidence Gaillan, les traces de sang sont encore présentes devant la porte en bois de l'appartement où a eu lieu le drame. C'est là qu'Aurélie, une femme de 33 ans, a été retrouvée sans vie vers 4h du matin. Dans la nuit de dimanche à lundi, couverte d'hématomes, de traces de coups, c'est Océane, une voisine et amie d'Aurélie, qui m'y emmène.
La veille du drame, déjà, monsieur était bien agité. Il a été menaçant envers plusieurs personnes. Il a agressé une femme avec son enfant dans les bras.
Dans la soirée, dès 18h, de l'aveu de plusieurs témoins, Karim, 38 ans, le conjoint, était dans un état avancé d'alcoolémie, tapant à toutes les portes de l'immeuble, explique Jocelyne.
Il était venu frapper à nos portes, mais à coups de point, hein. J'ai eu peur. Alors j'avais appelé la police.
Et quand la police est arrivée, elle ne l'a pas embarquée alors que l'homme portait un bracelet électronique. Mathilde est une voisine.
Bah, ils n'ont rien voulu faire parce que soi-disant qu'il était chez lui. On leur a dit si vous faites rien, un jour il se passera quelque chose. Et puis bah, ça a été plus vite.
Et ce n'était pas la première histoire de ce type, explique Océane, son amie. Aurélie avait déjà déposé plainte pour violence conjugale il y a 3 ans avant de la retirer.
Combien de fois je l'ai vue avec des bleus sur le visage, le nez cassé. Si la police avait fait son travail, bah, ça ne se serait pas passé.
Après l'intervention des secours, l'homme a été retrouvé les mains pleines de sang. Il a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.
Et dans la banlieue de Nancy, cette fois, une femme a sans doute échappé au pire. Elle a réussi à prendre la fuite. Son conjoint venait de lui raser le crâne devant leurs enfants parce qu'elle aurait menacé de le quitter. Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, était l'invitée d'Alba Venturin ce matin sur RTL. Pour elle, cette recrudescence des violences faites aux femmes n'est pas un hasard.
J'ai toujours dit depuis le début du confinement qu'il y aurait un phénomène de décompensation avec y compris des violences en direction des femmes. Je peux vous dire qu'il y a eu d'ailleurs une hausse de 42% des signalements. Et on a des régions dans lesquelles cette hausse elle est la plus forte. La région PACA, les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont les 3 régions dans lesquelles cette hausse est la plus forte. On a une hausse effectivement des violences, on a aussi une hausse des signalements. Et moi je veux vraiment ce matin à votre micro remercier les témoins. Parce qu'on a de plus en plus de témoins qui appellent les forces de l'ordre pour protéger leurs voisines, leurs collègues de bureau, une personne de la famille. Et ça c'est fondamental.
Marlène Schiappa ce matin sur RTL. La lutte contre les féminicides, c'est donc la question du jour sur RTL.fr. La prise de conscience vous semble semble-t-elle à la hauteur? Vous allez en débattre au 32-10 dans quelques minutes avec les auditeurs, Pascal Praud.
Oui, Christelle, et ce qui est frappant, c'est qu'un an et demi après le Grenelle contre les violences faites aux femmes, on a l'impression que rien n'a changé. Par exemple, j'apprends ce matin, et c'est incroyablement révélateur, que le directeur central de la sécurité publique est obligé de donner des instructions pour que les policiers transmettent les plaintes systématiquement et sans délai à la justice. Mais c'est ce qui devait être fait.
On va y venir.
C'était précisément ça qui devait être fait. Ça fait des mois, des années que cela est réclamé. Pareil pour les bracelets anti-rapprochement pour les conjoints violents qui dormiraient dans les placards. Alors en Espagne, téléphone rouge, tribunaux spécifiques, ordonnances de protection, bracelets électroniques ont fait baisser le nombre de féminicides. Ce que l'Espagne a réussi, la France doit pouvoir le faire.
Eh bien, on va voir ce qu'on en dit du côté de la justice. Nous sommes avec Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats. C'est le premier syndicat de magistrats. Bonjour.
Bonjour.
On en parlait à l'instant, le directeur central de la sécurité publique a effectivement donné des instructions très précises pour que les policiers transmettent systématiquement et sans délai à la justice les plaintes et les mains courantes déposées par ces femmes en danger. On est effectivement un peu surpris. C'était pas systématique ?
Ben non, parce qu'en fait, ça n'a pas grand sens à partir du moment où il n'y a pas une enquête préalable. Que voulez-vous qu'un procureur fasse d'une plainte s'il n'y a pas eu d'enquête sur les faits qui sont dans cette plainte? La victime, concrètement, elle vient au commissariat, elle dit voilà, il m'est arrivé ça, telle personne a été témoin. Si on transmet ça directement au procureur, ben, que va en faire le procureur? Tout simplement, il va le renvoyer au service d'enquête, la police, la gendarmerie, en leur disant ben, merci d'enquêter sur cette plainte. Donc ça n'a vraiment pas grand sens en soi de transmettre les plaintes et les mains courantes.
Ça veut dire que la police et la justice vont se renvoyer la balle?
C'est ce que j'essaye d'expliquer. À partir du moment où il y a une plainte qui est déposée, ce qu'il faut, c'est enquêter dessus. C'est pas l'envoyer au procureur. Lui, il va rien en faire tel quel. Il faut une procédure beaucoup plus complète. Évidemment, il faut vérifier les dires de la personne. Il faut vérifier auprès des témoins. Il faut enquêter tout simplement.
Donc, vous avez l'impression qu'avec cette note, la police se décharge un peu sur la justice?
Bah, c'est un peu ça, effectivement. L'objectif, ça nous paraît être de reporter la responsabilité des retards de traitement, finalement, sur la justice. Parce qu'en plus, il faut bien voir qu'on reçoit des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de procédures par an. Donc, si une plainte se retrouve glissée entre 2 autres dossiers, elle va prendre encore plus de retard si elle n'est pas particulièrement signalée. Alors, on va faire quoi? On va signaler les plaintes qu'on va envoyer au procureur pour que le procureur les renvoie encore plus rapidement au service de police. Enfin, tout ça nous paraît clairement une perte de temps.
Alors, mais juste prenons un exemple. Avec cette transmission systématique de plaintes, ça veut dire par exemple que dans le cas d'Ayange, où cet homme avait tué sa compagne de 22 ans alors qu'elle avait déjà déposé une main courante et des plaintes, il aurait été identifié comme conjoint violent et donc il n'aurait pas purgé sa peine de prison ensuite au domicile conjugal?
On ne va pas refaire l'histoire, hein, parce qu'il n'est pas possible à partir d'un dossier
qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que ça aurait pu changer les choses?
De faire des suppositions. Il est impossible de le savoir, soyons clairs. Chaque dossier est totalement différent. C'est une personne qui avait déjà été condamnée pour violence conjugale. Est-ce qu'on aurait pu en faire plus ? Une inspection est en cours et tranchera ce point. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que si une enquête ne fait pas l'objet d'une plainte avant d'être transmise, eh ben ça ne sert strictement à rien de la transmettre.
Parlons des bracelets anti-rapprochement. Ils existent effectivement depuis le Grenelle des violences conjugales et pourtant, ils dorment dans des placards. Ça, c'est ce que dit le garde des Sceaux. Il n'y en a d'ailleurs que 78 qui sont utilisés en ce moment même sur 1000. Là, c'est la responsabilité de la justice.
Alors, il faut bien voir que ces bracelets, ils commencent tout juste à être déployés. On ne va pas d'un seul coup poser 1000 bracelets d'un coup. L'expérimentation qui a commencé en septembre, qui a pris fin en avril, c'est en avril qu'on a commencé réellement à déployer ces bracelets dans toute la France. Donc, c'est très récent, il faut quand même relativiser.
C'est oui, très mais c'est lent et on voit l'urgence. Et on ne comprend pas, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi ça prend autant de temps?
Alors, pourquoi ça prend autant de temps? C'est parce qu'en plus, c'est un dispositif très compliqué à mettre en place.
Oui.
Concrètement, il faut aller mesurer, faire une enquête de faisabilité très précise pour mesurer les distances, puisqu'il faut imposer des distances entre la victime et l'auteur, pour faire court. Et ces distances-là, elles ne s'improvisent pas du tout en un claquement de doigts. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en place. Bon, déjà, si on avait les moyens de prendre du temps pour faire ça, ce serait bien. Effectivement, c'est un petit peu décourageant quand on voit la complexité du dispositif. Mais je tiens aussi à préciser quelque chose. Ce bracelet ne peut être posé qu'avec le consentement de la victime. Ouais. Et il faut malheureusement rappeler que dans un très grand nombre de cas, la victime n'est pas d'accord. Soit parce qu'elle n'a pas réellement peur de son conjoint, enfin en tout cas elle estime qu'elle est capable de s'en défendre toute seule, soit parce qu'elle n'a pas envie d'avoir ce dispositif sur elle qui va la stresser encore plus peut-être qu'elle ne l'est déjà. Enfin, malheureusement, il y a aussi beaucoup de victimes qui n'en veulent pas. Donc entre la complexité du dispositif qui du coup n'incite pas les professionnels à le proposer, même si aujourd'hui on a beaucoup de circulaires qui nous incitent à le faire. Et les victimes qui ne veulent pas forcément de ce dispositif, je pense qu'il faut quand même le dire, ça ralentit le développement.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué en tout cas pourquoi ces bracelets anti-rapprochement, il n'y en avait pas un peu plus en circulation en ce moment. Merci beaucoup Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats. Bonne journée. On fait une pause et dans un instant, le coup de cœur de nos correspondants avec un héros à quatre pattes.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Partons à Toulouse.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
On va saluer une vie de chien. Appel est une femelle Saint-Hubert de la Gendarmerie nationale. Elle vient de partir à la retraite et dans sa carrière, elle aura sauvé plus de 22 personnes, Patrick Hisson.
Oui, Appel avec un H au début du nom, elle y tient, a sauvé toutes ses vies et retrouvé plus de 150 personnes en 7 ans de carrière. La commandante Vanessa de Maria du groupement de gendarmerie du Gers se souvient de l'une de ses dernières missions dans les Pyrénées.
Une personne âgée qui avait chuté pendant sa balade et elle a réussi à retrouver cette personne âgée, la personne était en vie encore, fatiguée, déshydratée, mais la personne était en vie et sans la chienne, on n'aurait jamais retrouvé cette personne-là. À chaque fois, c'est des bons moments, des bons dénouements. C'est une race de chiens, effectivement, on a plus envie de lui faire des câlins qu'autre chose et ils sont, oui, très attachants. Et puis, la grosse particularité aussi de ces chiens, c'est qu'ils vivent avec leur maître à l'année.
Aux côtés de l'adjudant Robin, avec qui elle va poursuivre sa vie de retraitée à Auch, tout en restant active pour maintenir sa forme. La Saint-Hubert et ses 380 millions de cellules olfactives, c'est deux fois plus que les autres chiens, a été deux fois récompensée pour ses exploits à répétition. Elle a reçu notamment le coup de cœur du jury des chiens héros en 2019, une cérémonie très émouvante où elle avait donné de la voix au moment où la Marseillaise avait résonné.
Et du caractère. Et en plus, elle a une touche craquante avec ses longues oreilles et sa gueule tout emplie. Merci Patrick. La disparition de Romain Bouteille à l'âge de 84 ans, c'est lui qui avait créé notamment avec Coluche le célèbre Café de la Gare à Paris et mis le Café Théâtre à l'avant-scène. Il avait fait éclore aussi Miu Miu ou encore Patrick Devers. Il expliquait que sa vocation artistique, c'était de trouver un job qui permette de se lever à n'importe quelle heure et qui ne suppose ni diplôme, ni réel travail, ni obéissance. Fin de citation.
Roland-Garros 2021,
c'est sur RTL.
Le roi Nadal entre en lice aujourd'hui, il a gagné 13 fois le tournoi. On verra aussi Djokovic en nocturne et à huis clos. 10 Français sont sur les cours et on est sûr qu'il y en aura au moins un au second tour puisqu'il y a un duel Gasquet-Gaston, Isabelle Langer. Bonjour Isabelle.
Bonjour, ce sera dans l'après-midi effectivement sur le cours Suzanne Lenglen où à l'instant Fiona Ferro s'est qualifiée pour le deuxième tour en éliminant en 3-7 la joueuse de Taipei Liang, 6-1, 6-6-4. Ferro qui nous avait enthousiasmé l'an dernier en parvenant en huitième de finale. Dans un instant, c'est Gaëlle Monfils qui va faire son entrée sur ce cours. Suzanne Lenglen y sera opposée. Ce ne sera pas facile à l'Espagnol Ramos Vinolas. La petite copine, enfin la fiancée j'ai envie de dire, et future femme de Gaëlle Monfils est sur le cours central. Elina Svitolina, tête de série numéro 5 de ce tournoi, est opposée à la joueuse la plus mal classée du tournoi. Et pour cause, elle a seulement 17 ans. Elle est française, elle s'appelle Océane Babel. Elle est 1111e joueuse mondiale et je peux vous dire, elle était quart de finaliste chez les juniors l'an dernier, qu'elle joue crânement sa chance. Elle a perdu certes le premier set 6-2, mais elle mène 3 jeux à 1. Elle a fait le break dans le deuxième set. Vraiment, elle nous épate cette jeune femme. Alors que sur le court Hugo Humbert est mené 6-4, 5-4 par le Lituanien Berankis et Berankis sert pour le gain du deuxième set.
Merci Isabelle, à tout à l'heure. Pascal.
Elle est toujours avec nous, Isabelle.
Oui, elle est toujours là. Vous êtes toujours là, Isabelle.
Je suis là.
J'ai appris une chose abominable, Isabelle. Paraît-il que le premier joueur français aujourd'hui est 37e joueur mondial ?
Ah non, vous vous trompez.
Non, c'est,
mon fils est 14e. Numéro 14.
Ah, mon fils est 14e.
Et Hugo Humbert est 29e. Arrêtez de dénigrer les joueurs français.
D'accord. C'est Chardy qui est 37e, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
Voilà. Gasquet, 14e.
Bonne journée.
Non, mais d'accord. Parce que par exemple, c'est la pire période que nous traversons. Donc, mais je suis quand même content d'avoir Isabelle régulièrement.
À part ça,
le tennis, c'est intéressant. À part ça, vous l'avez dit très bien, et c'est fatigant. D'ailleurs, ce mot est faible, évidemment, c'est bien au-delà. On ne comprend pas pourquoi ce qui est décidé, et c'est toute la France qui est décidée dans un Grenelle avec Marlène Schiappa. Il y a une volonté politique, manifestement, elle a existé cette volonté politique. Et ce n'est pas suivi des faits. Et j'ai envie de vous dire, tout est comme ça en France. Voilà. Vous le savez.
Ah, je ne sais pas, moi.
C'est-à-dire que tu prends des décisions.
Vous lancez le débat.
Tu prends des décisions. En fait, c'est parole et parole. C'est du blabla. Donc ça ne change rien. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que ce pays, une fois qu'il y a des décisions politiques qui sont prises, qu'elles soient appliquées sur le terrain ? Je vous pose la question.
Le 32-10 est ouvert. À tout à l'heure. La météo, Peggy Broche. La chaleur tourne à l'orage dans le sud-ouest.
Eh oui, Christelle. Alors d'abord, entre les Pyrénées et la Gironde, où c'est déjà bien nuageux, des averses localement orageuses avec de la grêle. Cette instabilité va remonter en fin de journée vers le Poitou et s'étendre au midi toulousain avec du vent et également vers l'Auvergne. Et on attend aussi une petite averse orageuse cet après-midi sur les reliefs du Jura et des Alpes ailleurs. C'est encore du beau temps très ensoleillé, surtout entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et l'Alsace. Côté température, on se croira en plein été. Hein, 30 degrés attendus cet après-midi à Nantes, 29 à Paris, Tours, Clermont-Ferrand, 28 à Biarritz, 27 à Caen, Strasbourg et Dijon et 24 à Montpellier.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h. Bon appétit si vous êtes à table.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est un sujet évidemment grave, gravissime, les violences conjugales, et on a l'impression que rien ne change. Dominique est avocat. Est-ce que c'est votre sentiment également que rien ne change ?
Parfaitement, Pascal. C'est un sujet extrêmement délicat pour lequel on fait du prêt-à-porter, il faudrait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on apporte une réponse globale, il faudrait du cas par cas, tant pour le traitement des auteurs de violences que pour l'accompagnement des victimes.
Eh bien, nous allons évidemment beaucoup en parler. Le rappel des titres avec Christelle.
Oui, encore un féminicide à Douai. Une femme de 33 ans est tombée sous les coups de son compagnon hier matin. Ce dernier est en garde à vue pour homicide volontaire. Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, expliquait ce matin sur RTL qu'il y avait un phénomène de décompensation avec le déconfinement. Mais de plus en plus de témoins osent appeler la police. Le nombre de signalements a bondi de plus de 40% dans la région PACA, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Le maire maire de Grenoble, Éric Piolle, en garde à vue à Valence, dans la Drôme. L'élu écologiste est entendu dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public pour l'organisation de la fête des Tuiles. C'est un rassemblement populaire qui a lieu chaque année. Attention, si vous êtes en train de faire votre déclaration de revenus en ligne et que vous habitez dans les départements de 20 à 54, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour la remplir. Un astéroïde plus grand que la Tour Eiffel va frôler la Terre cet après-midi à plus de 64 000 km/h, un colosse de glace repéré par la NASA, mais pas de panique, il passera à un peu plus de 7 millions de kilomètres de nous. Les auditeurs.